Bon, très bien. Bonsoir à tous. Donc, nous allons. Merci d'être venus si nombreux malgré les problèmes de stationnement. J'ai l'impression que vous êtes même un petit peu plus nombreux qu'il y a 15 jours. Et donc, c'est un plaisir donc d'ouvrir ce deuxième volet de cycle de conférences, qui est cette fois-ci consacré plus spécifiquement au gène du cancer et puis aussi à la propagation du cancer par voie sanguine. Donc ce sont deux présentations qui vous seront présentées par deux chercheurs qui tous les deux appartiennent, si je puis dire, à l'Institut de physiologie et biologie cellulaire de l'Université de Poitiers. Donc tous les deux sont chercheurs, enseignants-chercheurs, un est plus affilié, on va dire, à la médecine, à la faculté de médecine, Nicolas Bourmester, qui va faire la première présentation sur les gènes du cancer, et l'autre à l'aspect un petit peu plus fondamental, à la faculté des sciences, Omar Benzacour, qui vous parlera donc de la propagation du cancer par le sang. Voilà, donc je vais leur laisser tout de suite la parole, et vous verrez, je pense, par leur présentation, deux versions de possibles de chercheurs. La passion et la patience. Vous comprendrez ce que je veux dire.
Je vais prendre le micro. Bonsoir d'abord et merci d'être venus si nombreux ce soir pour écouter les choses que j'espère pas trop incompréhensibles qu'on va vous dispenser. Je vais vous parler donc des gènes du cancer et le titre est un peu long, mais l'idée, c'est que je voudrais vous faire partager la question véritablement de la signalisation intracellulaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans une cellule, qu'elle soit cancéreuse ou finalement qu'elle soit normale. Et ce que les cellules cancéreuses nous apprennent, à nous, chercheurs, et à vous, éventuels utilisateurs, à un moment ou à un autre de votre vie, de hospitalier, sur le fonctionnement des cellules. Donc, de l'identification des gènes responsables à la compréhension du mécanisme. Et donc, la question, c'est de mettre en place un modèle de fonctionnement de la cellule lorsqu'elle est normale. Alors, j'ai été chercher dans le virus, hein, cancer. Cancer, la définition, c'est tumeur malignant formée par prolifération désordonnée des cellules d'un tissu ou d'un organe. Alors, quand on a vu ça, on a compris qu'il s'agissait de quelque chose de dangereux, qu'il y avait un problème de prolifération, que cette prolifération était pas contrôlée, donc désordonnée, et que ça concernait des cellules, et on voyait qu'on est totalement indéfini sur la question, puisqu'on dit d'un tissu ou d'un organe. Alors ça signifie une chose très précise d'abord, c'est que ça peut toucher n'importe quelle cellule. Donc le cancer, c'est une maladie qui touche n'importe quelle cellule. Ça, c'est une définition qu'il ne faut pas perdre de vue. Et la cause primitive du cancer, c'est avant tout les mutations qui vont intervenir dans l'ADN d'une cellule. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent, parce que là, vous avez déjà une définition, une mutation de l'ADN d'une cellule. Alors, évidemment, pour les gens qui travaillent dans l'ADN, mutation, ça veut dire des choses très précises. ADN, tout le monde sait ce que c'est, ou croit savoir. Et cellule, alors là, c'est vraiment quelque chose que je pense que si je posais la question à des gens dans la salle, je ne suis pas sûr qu'on aurait tous la même définition de ce qu'est une cellule. Et donc la première chose qu'il va falloir définir, la première chose qu'il va falloir définir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une cellule. Alors ça tombe plutôt bien, parce que ma spécialité, c'est la biologie cellulaire. Donc effectivement, je m'intéresse avant tout à la question de savoir ce que c'est qu'une cellule. Donc, on va essayer de définir ce que c'est qu'une cellule. Alors, une cellule, avant tout, c'est ça. Hein? C'est-à-dire, une enveloppe. Une enveloppe qui sépare. Alors, si ça marchait, ça serait mieux. Un cellulaire d'invasion extracellulaire. Alors ça, c'est une définition très très large qui concerne toutes les cellules. Toutes les cellules répondent à cette notion. Et donc, à partir du moment où je sépare invasion intracellulaire d'invasion extracellulaire, j'ai à l'intérieur un niveau qui est différent de celui de l'extérieur. Et la membrane cellulaire, ici la membrane plasmique, est une membrane qui nous permet de définir des choses qui vont se faire à l'intérieur, qui sont différentes des choses qui se font à l'extérieur. Donc une cellule, avant tout, c'est ça. À l'intérieur, ben c'est une usine. C'est une véritable usine. Nous avons à l'intérieur d'une cellule des fonctions de tout type. C'est une usine absolument extraordinaire, miniaturisée, donc microscopique, et qui fonctionne. On va essayer de voir comment. La première chose que fait cette usine, c'est qu'elle va organiser des échanges entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Elle va donc aller chercher à l'extérieur les choses dont elle a besoin pour fonctionner à l'intérieur, et elle va donner à l'extérieur des choses éventuellement dont elle n'a pas besoin, ou qui seraient utiles pour d'autres. Et puis, on va changer également des choses très très importantes, c'est de l'information. Les informations qui vont venir de l'extérieur et qui vont donner à la cellule un certain nombre de points qui vont lui permettre de comprendre où elle se trouve, ce qu'elle est capable de trouver à l'extérieur, mais également de l'information qui va sortir de la cellule et qui va être capable d'aller voir si on peut retrouver d'autres partenaires, si on peut aller échanger des informations avec d'autres. Tout ça est intégré à l'intérieur de la cellule. Vous avez des signaux qui sont envoyés par tous ces éléments, et la cellule organise des réponses qui sont adaptées à ces signaux. Alors bien évidemment, une cellule ne reçoit pas un signal, elle en reçoit des quantités astronomiques. Hein. Et donc l'intégration de ces signaux et toute la problématique de la vie de la cellule. Alors, si je prends maintenant, ici, vous voyez, je vous ai représenté quatre types cellulaires. Vous avez ici une cellule musculaire, striée. Ici, c'est un lymphocyte, donc une cellule circulante, hein, une cellule blanche circulante. Ici, c'est un ovule. Et ça, ce sont des fibroblastes, c'est-à-dire des cellules qui sont dans le derrière de la peau. Quatre types cellulaires, issus d'un même individu. Ces quatre types cellulaires, en fait, possèdent absolument le même génome. Donc le génome de ces quatre cellules est exactement le même. Mais ces quatre cellules, vous voyez bien, elles ont défini des fonctions extrêmement différentes. Et ces fonctions différentes, eh bien, elles ne peuvent donc pas être prises en compte par la seule inspection du génome. La seule inspection du génome ne vous donnera pas une idée sur la fonction de ces cellules. Il faut donc aller chercher autre chose. Donc, si toutes les cellules ont le même génome, elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Donc, le génome, globalement, c'est comme un disque dur. Si je prends un disque dur, hein, comme cette jeune fille ici, et que je la regarde, je ne vais pas en faire grand-chose. Mon disque dur, super, je le regarde, mais je ne peux rien en faire. Le disque dur, c'est donc de la mémoire morte. Cette mémoire morte, j'ai besoin d'une machinerie très complexe pour être capable de la lire et de l'utiliser. Elle contient absolument les éléments nécessaires au fonctionnement, mais en tant que tel, elle ne sert strictement à rien. Donc, de manière indispensable, le génome doit être lu et doit être déchiffré par la machinerie cellulaire qui va essayer de l'utiliser. Et la machinerie cellulaire, en fait, pour simplifier énormément, eh bien, elle est assurée par les protéines. Les éléments agissants de la cellule, ce sont les protéines. Donc les protéines, ce sont en fait des chaînes décidérées, hein, vous avez des chaînes comme ça qui sont constituées d'une suite décidérée les uns les autres, et ces chaînes, donc, se rappeler pour former des structures relativement complexes. Et ces structures complexes, eh bien, elles vont assurer des fonctions. Alors ici, je vous ai listé un certain nombre de fonctions que l'on va pouvoir attribuer à des protéines. Alors, vous allez avoir des moteurs, vous allez avoir des fonctions de synthèse, vous allez avoir des fonctions de liaison, c'est-à-dire de liaison de protéines à protéines, vous allez avoir des fonctions de coupure, des fonctions de type canal, des fonctions de type modification, etc. Donc, un très grand panel de fonctions qui sont assurées par des protéines différentes, selon le repliement des chaînes ici, et donc évidemment la séquence de base de ces protéines. La séquence de ces protéines, elle n'est pas un hasard. La séquence de ces protéines, elle résulte bien évidemment de la lecture de l'ADN. Et donc les protéines sont synthétisées à partir de l'information qui est contenue dans l'ADN. Et l'ADN, évidemment, c'est la partie qui va être importante pour la synthèse des protéines, ce sont les gènes. Alors, dans l'ADN, on retrouve des régions codantes, et ces régions sont des régions qui vont être codantes pour une protéine. Alors, je simplifie énormément, évidemment, mais un gène égale une protéine. Donc, les gènes, c'est de l'ADN, les protéines, c'est des acides aminés. On a donc deux choses très différentes. L'ADN n'est pas agissant en tant que tel. Les acides aminés, eux, ils ont une fonction et ils sont capables d'agir sur le milieu. Donc finalement, qu'est-ce que c'est le cancer? On a dit que le cancer, ça résulte de mutation de l'ADN cellulaire. Et donc si j'ai une mutation dans l'ADN d'un gène, eh bien ça va entraîner, pas toujours, mais très souvent, une mutation de la protéine qui est encodée par ce gène. La mutation de la protéine va entraîner une modification de la fonction de la protéine. Et la modification de la fonction de la protéine va avoir un effet sur l'équilibre de la cellule. Donc, au bout du compte, vous avez un champ d'environnement qui vient de mutation au niveau de l'ADN vers l'équilibre de la cellule. Alors, il y a deux grands types de modifications. Joël Roche, vous en avez déjà parlé il y a 15 jours. Donc, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus. Simplement parce que ça va porter mon propos qui va suivre. Deux grands types de modifications qui vont entraîner des cancers. Première modification, ce sont les mutations qui vont entraîner la dysfonction pour la protéine. Ces mutations vont conduire à la définition de ce que sont les oncogènes, et qui donc, comme Jean vous l'avait bien expliqué, sont les accélérateurs, c'est-à-dire des éléments qui, lorsqu'on appuie dessus, eh bien, ils forcent la cellule à proliférer. Et puis, de l'autre côté, on va avoir des mutations, pas de fonction. Et ça, ce sont les gènes suppresseurs de tumeurs, et ce sont des protéines encodées par ces gènes, qui vont avoir un effet de frein, de régulateur dans le processus de prolifération. Alors moi, je vais m'intéresser surtout aujourd'hui aux oncogènes. Pour vous montrer un petit peu l'historique de la découverte des oncogènes, en quoi ces oncogènes nous ont permis de comprendre des choses fondamentales sur la vie de la cellule, et comment, à présent, maintenant qu'on a fait un catalogue et qu'on a réussi à assembler les pièces du puzzle, on peut définir des modèles cellulaires. Alors les oncogènes. Les oncogènes, c'est une découverte en fait relativement récente, mais la première observation de ce qu'est un oncogène a été en fait en 1911, donc ça va bientôt faire 100 ans, par un monsieur qui s'appelle Peter Ross, aux États-Unis, au Rockefeller Center. Et ce monsieur, il a eu une idée qui n'était pas du tout saugrenue. Il a repéré qu'il y avait des tumeurs. Il a extrait les tumeurs de ses poulets. Il les a broyés. Il les a passés dans des filtres très 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 fin, de manière à éliminer tout ce qui était cellules, bactéries et autres. Et il a injecté le filtrat qu'il avait obtenu à d'autres plaies. Et de ce fait, eh bien, il a obtenu chez ces plaies auxquelles il avait injecté le filtrat de tumeurs de plaies, de nouvelles tueurs. Il a donc montré que le cancer pourrait être transmis. Ça, c'est une découverte absolument extraordinaire. Et ben, on a découvert par la suite qu'en fait, il s'agissait de virus, que ces virus étaient des virus de type comme le HIV, c'est-à-dire des rétrovirus. Mais enfin, ça, je ne vais pas insister là-dessus. Toujours est-il que Peter Rus a dû arrêter son travail, hein, ça c'est un peu les problèmes qui concernent la recherche d'aujourd'hui, puisque on essaye aujourd'hui de nous expliquer qu'il faut être efficace, on doit faire des choses qui servent, et on doit aller vers des éléments extrêmement utiles à la société. Donc il y a des gens qui décident beaucoup mieux que nous de ce que nous sommes capables d'inventer. Et M. Pétonas, ben, il est un exemple typique de ça, puisqu'on l'a dit, le centre culturel arrive, vous travaillez sur les poulets, on s'en fiche complètement, ça n'intéresse personne, vous arrêtez. Et du coup, cette découverte est restée complètement lettre morte jusque dans les années 50, où on a commencé à s'intéresser au virus, et on a redécouvert les éléments que Pétonas avait mis en place, et qui ont conduit à son prix Nobel qu'il a obtenu en 66. Il a eu beaucoup de chance, ce monsieur, parce qu'il a vécu très très bien, et vous savez que on donne le prix Nobel que des gens vivants. Donc monsieur Rus a eu beaucoup de chance de vivre jusqu'à 91 ans, parce que sinon le prix Nobel serait pas facile. Bon, donc Peter Rus, c'est vraiment quelqu'un d'absolument indispensable dans cette histoire. Dans les années 70, c'est-à-dire très très longtemps après, d'autres chercheurs vont mettre en évidence d'autres gènes viraux responsables de tumeurs. Et là, il va y avoir des découvertes majeures, c'est-à-dire qu'on va découvrir que ces gènes viraux responsables de tumeurs sont en fait des gènes qui sont déjà présents chez l'hôte. On a donc quelque chose qui vient d'un virus, mais qui en fait est déjà présent chez l'hôte. Comme si le virus avait pris chez l'hôte quelque chose, l'a modifié et l'a rendu sous une forme modifiée. Entraînant donc la mise en place de tumeurs. Alors l'expérience a été réalisée par Bishop et Varus, une grande expérience qui a conduit une fois de plus à un prix Nobel qui a été remis en 89, c'est-à-dire une quinzaine d'années après la découverte. Ils ont fait quelque chose de très très simple, comme ça aujourd'hui ça a l'air très très simple, en fait c'est pas du tout simple. Ils ont pris l'ADN viral qu'ils ont transcrit, enfin rétro-transcrit, je n'insiste pas sur les techniques, ils ont pris l'ADN de plaie et ils ont hybridé les deux. Et comme vous voyez sur cette photo ici, eh bien, vous avez ces deux ADN qui hybrident. Vous avez la photo à la microscopie électronique ici et la traduction ici. L'ADN du poulet est en rouge, l'ADN viral est en noir. Et vous avez une magnifique hybridation qui montre que les deux ADN correspondent. Alors ça, c'est absolument fantastique. Ça veut dire que dans le virus utilise des protéines qui proviennent de l'hôte modifiées pour entraîner la mise en place de tumeurs. Donc le bain qui s'est mis en place petit à petit, c'est que, eh bien, a priori, tous les cancers étaient d'origine virale. Ah, bon. Sauf que, très très vite, on a revenu sur cette question. Je vais y revenir tout de suite. On a commencé ensuite à voir analyser l'activité des produits de ce gène, c'est-à-dire les protéines qui sont synthétisées à partir de ces gènes mutés. Et lorsqu'on regarde l'activité des protéines protéines qui sont synthétisées à partir de ces GRT, eh bien, on constate, vous le voyez ici, pour SARC, qui est un oncogène, qui est un des premiers oncogènes qui a été isolé, C c'est pour cellulaire, V c'est pour viral, eh bien, le SARC cellulaire a une très très faible activité, alors que le SARC viral, lui, a une très très forte activité. Donc, vous aurez systématiquement, lorsqu'on parle d'oncogène, une activité de la protéine virale ou de l'oncogène qui est augmentée. Ça, ce sont des découvertes qui ont été faites par ce monsieur, qui n'a toujours pas été vrai, peut-être qu'il y aura un de ces quatre, on ne sait pas. Monsieur Terminator. Au cours des années 80, on va donc découvrir, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, que, en fait, la plupart des cancers, ne sont pas d'origine virale. Donc ça, ça pose un problème par rapport à toutes ces découvertes, c'est-à-dire que la plupart des cancers humains ne sont pas d'origine virale, mais par contre, lorsqu'on analyse ces cancers, leur ADN, on découvre qu'il y a bien des oncogènes qui sont présents dans ces cancers. Donc, ça signifie que la mise en place de ces oncogènes n'est pas d'origine virale, ce sont des mutations qui se produisent, mais ces mutations, elles surviennent par un certain nombre d'éléments. Marc Morel est ici présent, vous en a bien parlé il y a 15 jours si vous étiez présent. À partir de ce moment-là, on va rechercher systématiquement tous les oncogènes qu'on peut répertorier. Et on va identifier plus d'une centaine. Ces oncogènes, on va les réunir, je simplifie le deux mots, beaucoup, en trois grandes classes. Trois grandes classes qui sont ici. D'abord, les facteurs de croissance et des récepteurs aux facteurs de croissance. Je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, un magma de protéines qui sont des protéines qu'on va retrouver dans le cytoplasme avec des activités très diverses. Et puis enfin, des protéines nucléaires qu'on appelle des facteurs de transcription, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, trois types, trois grandes classes d'oncogènes. Ça me ramène à notre cerveau de tout à l'heure. Et à son problème de communication avec l'extérieur. Puisque nous avons ici des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, c'est une découverte qui date des années 50-60. Et les premiers facteurs de croissance ont été purifiés au cours des années 70 au Scripps à San Diego par un Français qui s'appelait Guy Herlin. Et Guy Herlin, qui avait fait des colonnes de plus de 6 mètres de long pour avec des cerveaux de moutons, enfin une histoire absolument folle, il avait pris une cinquantaine de moutons, il avait braillé les cerveaux, et il avait passé ça dans une colonne qui faisait 6 mètres de long, et il avait sorti quelques microgrammes de FGF, c'est-à-dire le facteur de croissance des fibroblastes. Bon. Donc, vous voyez qu'on est en train de parler de choses qui sont infinitésimales, des quantités microscopiques de substances qui sont capables d'agir sur les cellules. Et donc, les facteurs de croissance, ils sont à l'extérieur. Mais la réaction, elle est à l'intérieur. La cellule va réagir, et comment elle réagit aux facteurs de croissance? Elle réagit en proliférant. Lorsqu'une cellule reçoit un message qui provient d'un facteur de croissance, ce facteur de croissance lui dit « tu dois te déliser ». Donc, nous avons nos facteurs de croissance à l'extérieur. Et puis, deuxième élément de la classe que je vous ai décrite, eh bien, ce sont les récepteurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un récepteur? Un récepteur, c'est une protéine qui traverse la membrane. Il y a une partie à l'intérieur de la cellule et une partie à l'extérieur. La partie à l'extérieur reconnaît le facteur de croissance. Il y a des récepteurs pour tout un tas de choses, pas seulement pour les facteurs de croissance, bien entendu. Hein. Le récepteur reconnaît les éléments à l'extérieur de la cellule. Et capable de transduire, c'est-à-dire de faire traverser la membrane, le signal, en modifiant les fonctions intracellulaires de la partie qui se trouve dans la cellule. Et donc, lorsque le facteur de croissance se fixe sur le récepteur, eh bien vous avez des modifications ici du récepteur. La deuxième classe de protéines dont je vous ai parlé, ce sont les protéines du cytoplasme et on va les appeler les transducteurs. Ce sont des éléments qui vont eux aussi être susceptibles de transduire un signal. Et puis, le dernier élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le noyau. Alors le noyau, vous savez que le cellule a un noyau, l'ADN il est contenu dans le noyau, il n'est pas dans le cytoplasme, l'ADN est dans le cytoplasme dans les bactéries, mais certainement pas dans nos cellules de mammifères. Et dans ces cellules de mammifères, eh bien, l'ADN est dans le noyau, qui est une structure relativement fermée à l'intérieur du cytoplasme, et à l'intérieur de ce noyau, eh bien, on va avoir le fameux facteur nucléaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des éléments susceptibles de se relier à l'ADN et d'entraîner l'expression des gènes sur lesquels ils se fixent. J'y reviendrai tout à l'heure. Tout ceci doit conduire, en tout cas, puisque nous avons là un certain nombre d'éléments, tout ceci doit conduire à la mise en place d'un programme de prolifération. Et il s'agit véritablement d'un programme. C'est-à-dire que, quel que soit le facteur de croissance que vous allez mettre sur la cellule, si un récepteur est présent, vous allez obtenir une prolifération, et cette prolifération est toujours la même. Vous avez quelque chose qui va se diviser en deux, et donc c'est un programme qui se met en place. Donc tous ces éléments doivent être devrais-je dire aujourd'hui, parce que on a quand même commencé maintenant à bien démarrer les chevaux, et tous ces éléments, dans les années 80, on les avait en main, mais c'était un véritable puzzle. On ne savait pas dans quel ordre il fallait mettre ces éléments. On avait donc des signaux extracellulaires et à notre bout, des facteurs nucléaires susceptibles de déclencher l'expression de gènes qui mettait en place un programme capable d'entraîner la division cellulaire. Et au milieu, une grande boîte noire. Qu'est-ce qui se passait au milieu? Et là, c'est l'explosion en mai-juin 93 avec la mise en évidence concomitante par 6 équipes dans 4 journaux différents. Ça s'est vraiment été un moment absolument extraordinaire au niveau scientifique, je dois reconnaître, je ne sais pas si tu en souviens Marc ou Omar, mais véritablement, mai-juin 93, c'est une date extraordinaire, la publication de 6 articles qui mettent en évidence la voie de maquillage qu'on sent, mais que personne n'osait imaginer. Et donc, c'est l'identification de tous les noyaux de la chaîne de signalisation entre la membrane plasmique et le noyau. Lorsqu'on observe cette voie de signalisation, on s'aperçoit qu'il y a 2 mécanismes fondamentaux qui vont la sous-tendre. Ces 2 mécanismes fondamentaux, ce sont les phosphorylations et les translocations. Je vais vous indiquer maintenant plus en détail de quoi il s'agit. Premièrement, les phosphorylations. Les phosphorylations sont réalisées par des protéines qu'on appelle des kinases. Les kinases, ce sont des protéines qui viennent se fixer sur leur substrat, sur d'autres protéines donc, et en utilisant un cofacteur qui s'appelle l'ATP, je pense que vous avez tous entendu parler de l'ATP, et bien en utilisant de l'ATP, elles vont prendre un phosphate à l'ATP et elles le fixent sur la protéine. Ça a l'air très bête comme ça, une simple fixation d'un ion phosphate sur une protéine, mais ça modifie totalement la fonction de la protéine en question. Soit ça va l'enlever, soit au contraire ça va l'activer. Donc les kinases ont un rôle absolument extraordinaire extraordinaire dans les cellules, et on répertorie dans une cellule à peu près plus d'un millier de kinases différentes. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme des translocations. Ça, ça fait appel à une notion absolument fondamentale en biologie cellulaire, qui est la notion de localisation des protéines. Dans une cellule, les protéines ne sont pas positionnées à n'importe quel endroit. Dans une cellule, les protéines sont positionnées à des endroits extrêmement précis, et lorsqu'elles se déplacent, ça entraîne des conséquences majeures. Premier exemple que je vais prendre, oubliez le nom, on les retrouvera tout à l'heure, mais il ne faut surtout pas que vous vous accrochiez aux noms qui sont totalement barbares. On a des choses absolument atroces. Les chercheurs ont une imagination extraordinaire pour trouver des noms imprononçables, absolument impossibles à se souvenir, des choses qui ont toujours un historique. Hein. Il faut savoir que les noms veulent dire quelque chose, mais il n'y a que ceux qui l'ont découvert qui s'en souviennent la plupart du temps. Donc, lorsque vous avez une protéine comme RAF ici, qui est au niveau du cytoplasme, cette protéine, eh bien, elle est inactive. RAF, c'est une kinase, hein, donc c'est une protéine qui est susceptible de phosphoryler d'autres protéines. Eh bien, je ne suis pas revenu en arrière. Le passage de RAF au niveau de la membrane entraîne une modification de la conformation de cette protéine et donc la rend active. Cette protéine qui est maintenant active, au niveau de la membrane, elle va être capable de phosphoryler d'autres protéines. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme qui est le mécanisme de l'actinase. Et l'actinase, elle s'opère aussi au niveau du cytoplasme. Celle-ci, vous voyez, elle est phosphorylée. Et la phosphorylée, elle n'est pas complètement active. Elle n'est pas complètement active pour une raison très simple, c'est que on sait que les substrats de l'actinase, ce sont les fameux facteurs de transcription nucléaire. Et donc, pour avoir une efficacité, eh bien, il faut qu'elle soit en contact avec ces substrats. Il va falloir qu'elle traverse la membrane de l'amont pour aller rencontrer ces substrats et être capable de les phosphoryler. Donc, ce mécanisme de translocation est un mécanisme fondamental. Et vous allez voir maintenant dans l'énumération que je vais vous faire, qui est, j'espère, pas trop pénible pour vous, mais vous allez voir combien ce mécanisme était complexe et en même temps extrêmement simple. C'est une merveille de biologie, cette voie des mapkinases, pouvoir apprécier la succession d'événements qui se produit lorsqu'un récepteur voit son site de liaison engagé avec un facteur de croissance. Donc, premier événement, évidemment, au niveau de la membrane de la cellule, mon récepteur va donner un facteur de croissance. La liaison de ce récepteur entraîne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une modification à l'intérieur. Et ces récepteurs, eh bien, ce sont des kinases. Et ce sont des kinases qui ont la capacité de phosphoryler elles-mêmes. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une autophosphorylation. Et donc, le premier événement, c'est déjà un événement de phosphorylation. Vous avez des protéines qui sont cytoplasmiques, ici, qui sont liées l'une à l'autre. Et, je suis revenu en arrière, comme toujours, la présence maintenant, tout d'un coup, au niveau cytoplasmique, de ces phosphorylations sur la queue cytoplasmique ici de notre récepteur entraîne la translocation de ce complexe. Et ce complexe se retrouve à la membrane lié au phosphate ici. Donc, deuxième événement, une translocation. translocation apparaît donc à la protéine ici qui s'appelle SOS. Bon, je vais résister au plaisir de vous raconter ce que ça veut dire SOS. Non, ce serait trop long. SOS, c'est... Je résiste pas. SOS, c'est Son of Sevenness. D'accord ? Son of Sevenness. Alors, ça, c'est les amis drosophilistes, les gens qui travaillent sur les drosophiles. Hein. Les gens qui travaillent sur les drosophiles ont toujours une imagination débordante. Ce sont des gens qui aiment beaucoup le cinéma, en particulier. Et le cinéma des années 30. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce film d'horreur avec Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, le fils de Frankenstein, Tarzan, son fils et compagnie. Bon, le fiancé de Tarzan. Bon, et là, le récepteur chez la drosophile, donc chez la mouche, s'appelle CRS. Pour une raison, c'est qu'il y a 7 points, et que lorsqu'il est monté, ben, il y en a plus 7, puis ils sont autour de l'œil, et qui sont dans n'importe quel ordre. Donc, le récepteur s'appelle CRS. Et les études qu'ont fait les braves drosophilistes leur ont permis de déterminer la présence de la protéine qui se lie à ce récepteur. Et ils l'ont appelé, ils avaient beaucoup d'imagination, Bride of Sevenless, la fiancée de Sevenless. Voilà. Donc, j'ai le deux ici, c'est, chez les drosophiles, c'est Bride of Sevenless, la fiancée de Sevenless. Et puis, quand ils ont découvert qu'il y avait une troisième protéine qui se liait par l'intermédiaire des deux premières au récepteur, eh bien, ils l'ont appelé le fils de Sevenless, son of Sevenless. Voilà. Bon. Vous voyez, hein, le côté complètement débrouillé de ces braves gens, il faut se taper des SOS comme ça, alors que tout le monde croit que ça a à voir avec le SOS, pas du tout, c'est vraiment rien à voir. Bon. Donc, notre SOS, c'est une protéine qui a pour effet d'agir sur une protéine ici qui s'appelle RAS. Alors RAS, c'est un des oncogènes les plus puissants que l'on puisse trouver aujourd'hui. Donc, c'est un élément majeur de notre chaîne de signalisation. RAS, il est en haut de la membrane, il est inactif. Et c'est l'arrivée de SOS au niveau de la membrane qui va le rendre actif. Donc, la présence de SOS transforme RAS en position activée. Et en fait, RAS en position activée, ben, il ne fait rien du tout. Il change simplement de conformation. Il ne fait rien. Il change de conformation. Et ce simple changement de conformation va permettre à la protéine RAF dont je vous ai parlé tout à l'heure de venir se lier. Ça y est, je suis encore revenu en arrière. De venir se lier à la membrane. Ce simple changement de conformation entraîne la liaison de RAF à la membrane. Et RAF, du coup, se trouve activé. Donc vous avez un troisième événement ici, qui est de nouveau un événement de translocation. Alors maintenant j'ai mon RAF activé. Et mon RAF activé, eh bien, il a un substrat préférentiel. Alors, vous oubliez les noms, hein. Il s'appelle MEC. MEC, eh bien il est phosphorylé par RAF. Vous voyez ? Donc un événement de phosphorylation. Et MEC, c'est lui aussi une kinase. Et il va phosphoryler, ben quoi ? Nos fameuses MAP kinases. Qui se retrouvent sous forme activée. Attention, nous sommes toujours dans le cytoplasme. D'accord ? Nous sommes dans le cytoplasme. Mais vous voyez que nous sommes passés en quelques étapes d'un tout petit élément en quantité infinitésimale à l'extérieur de la cellule, à la phosphorylation ici d'une véritable bombe atomique. Il faut bien imaginer une chose très importante en biologie, c'est le phénomène d'amplification du signal. C'est-à-dire qu'entre cet événement ici unique et celui-ci, vous avez un nombre d'éléments qui vont être activés pour chaque espèce qui augmente à chaque fois. Et donc, en fait, là, vous avez une centaine de MAP kinases activées pour un récepteur activé. D'accord ? Donc vous avez une amplification du signal absolument fantastique. Et la dernière étape, c'est celle que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire une étape de translocation. La MAP kinase passe dans le noyau, et dans le noyau, elles vont rencontrer des facteurs de transcription qui, une fois phosphorylés, se retrouvent activés, seront capables maintenant d'aller lier l'ADN, alors que dans leur état non phosphorylé, ils ne lient pas l'ADN. Maintenant, ils ont l'ADN, et ayant l'ADN, ils vont être capables de le lire, de le faire lire plutôt, parce que ce n'est pas eux qui le lisent, ils le font lire. Et on va avoir expression de gènes. Et donc, à partir d'un simple facteur de croissance ici, j'ai maintenant un programme qui se développe. Ça va ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Les noms ? MAP kinase, c'est un mitogène activated protein kinase. Kinase activé par les signaux mitogènes. D'accord ? C'est-à-dire les signaux qui entraînent la prolifération. MAP kinase, ERK kinase. C'est donc la kinase des MAP. D'accord ? Voilà. RAF, je ne sais plus ce que ça veut dire. RAF, j'ai oublié. Tu sais, toi ? Ah oui, ROS activated quoi ? F ? Factor. ROS activated factor. Facteur activé par RAS. Voilà. Voilà. Ok. Alors, je complique encore les choses de manière terrifiante. Vous voyez que vous avez ici maintenant un schéma où vous avez votre voie de MAP kinase qui se trouve ici. Voilà. D'accord ? Elle est là. Mais il y a une chose très importante qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est qu'il y a des points de contrôle à tous les niveaux de cette voie. À tous les niveaux, vous allez avoir des éléments qui vont venir soit freiner, soit accélérer le système. Donc partout, vous allez avoir des éléments qui vont venir interférer et soit bloquer, soit accélérer. Ça signifie une chose importante, c'est que le signal intracellulaire, il est très, 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 très surveillé. Il est surveillé comme l'huile sur le feu. Et un élément important, c'est que lorsque vous avez, par exemple, ici, au lieu de CRAF, VRAF, donc la forme virale de RAF, et bien, vous n'aurez pas réellement une prolifération, sauf en vous trouvant dans une cellule qui est déjà relativement transformée. D'accord ? Mais dans un signal normal, on verra ça tout à l'heure, vous n'aurez pas de transformation. Pourquoi ? Parce que dès que vous activez derrière, vous avez des systèmes de rétrocontrôle qui viennent bloquer en permanence cette signalisation positive. Dans le concept, qu'une seule mutation ne suffit pas à déclencher un cancer. Et ça, ce sont les expériences qu'a réalisé Bob Weinberg au début des années 90, peut-être fin des années 80, qui ont consisté à prendre des cellules normales, ici, des fibroblastes murins, donc de souris, issus de peau, et de leur injecter des oncogènes. Alors, il a pris 4 oncogènes, je ne vais pas vous les détailler, ça n'a aucune importance. Ils les ont mis un à un ou en combinaison et il n'a pas obtenu de transformation. Il a obtenu des phénomènes qui se rapprochaient de la transformation. Si vous étiez là il y a 15 jours, vous avez vu ce qu'est une transformation cellulaire. Hein. Mais la transformation était incomplète. C'est seulement lorsqu'il a combiné les 4 oncogènes qu'il a obtenu une transformation complète de ces cellules qui étaient capables à ce moment-là de former des tumeurs, réellement. Donc ça signifie quelque chose de très important, c'est qu'un seul environnement ne suffit pas, mais qu'il faut plusieurs environnements qui vont bien évidemment être successifs, ou alors également du tout, comme par exemple dans le cas de l'explosion nucléaire, vous avez tellement de cassures d'ADN que bon, la plupart des gens meurent immédiatement, mais ceux qui survivent ont des mutations monstrueuses qui conduisent à la mise en place de cancer directement parce qu'il y a trop de choses qui sont abîmées. Mais les cancers qui se développent, entre guillemets, naturellement chez nous, pauvres humains, eh bien, nécessite plusieurs événements successifs qui peuvent être séparés par de très grands moments de temps. J'ai fini. Alors, je vais présenter la voie de Malkinaz. La voie de Malkinaz, c'est, entre guillemets, la voie de transmission de signal vers la division cellulaire. Mais un cancer, ça ne va pas modifier une voie. Ça va modifier toute la vie de la cellule. Toute la vie de la cellule est transformée par la présence des oncogènes à l'intérieur de la cellule. Vous allez avoir évidemment, comme je vous l'ai dit, des modifications dans la prolifération. Mais les cellules cancéreuses sont modifiées dans leur adhérence. L'adhérence, c'est-à-dire leur capacité à se lier au substrat qui les entoure. Modification de la mobilité cellulaire. Tout à l'heure, Omar vous en parlera avec beaucoup plus de détails que ce que je peux faire maintenant. Modification, bien évidemment, un des éléments très importants dans la différenciation, puisqu'on sait que les cellules cancéreuses conservent parfois les caractères d'origine de la cellule, mais en règle générale, les perdent pour revenir à des états relativement différenciés. Et plus on est différencié, plus le cancer est dangereux. Et également, là, les capacités de réparation de l'ADN qui conduisent toujours vers des modifications supplémentaires et une dangerosité de plus en plus grande au fur et à mesure du temps de ces cancers, et ainsi de suite. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que ces éléments ne sont pas indépendants. Toutes ces fonctions sont interdépendantes. Ces fonctions, eh bien, elles ont des éléments communs, l'adhérence et la mobilité. Évidemment, si vous avez des pneus lisses, eh bien, vous ne pourrez pas faire avancer votre voiture. Donc, votre voiture a besoin d'avoir des pneus qui sont capables d'adhérer à la route. Eh bien, l'adhérence étant modifiée, vous allez avoir une différence de mobilité, vous allez avoir des cellules qui vont être capables tout d'un coup de se déplacer sur des milieux sur lesquels elles ne savaient pas se déplacer avant. Et ainsi de suite. Alors je termine avec ça, c'est juste le plaisir de vous faire peur. Ça c'est, entre guillemets, ce que Bob Weinberg, parce que c'est la première d'un article de Bob Weinberg, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est, entre guillemets, l'état des connaissances actuelles sur les voies de signalisation intracellulaire. Alors, oui, non, je ne vais pas me jeter, puis je serais totalement, complètement incapable. Hein. D'abord, c'est strictement invisible. Il faut un ordinateur et aller se pencher avec une loupe sur chacun des éléments pour arriver à en tirer une information quelconque. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on puisse en tirer de l'information. Globalement, c'est vraiment un travail de bon. Mais vous voyez que vous avez des éléments qui sont des voies qui proviennent d'endroits, ici, et ces éléments s'entrecroisent. Ça, c'est un élément très important que j'aimerais bien que vous reteniez aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas affaire à des voies directes comme celles que je vous ai décrites, mais on a affaire à un véritable réseau. C'est un réseau d'informations. Vous avez des éléments qui proviennent de différentes sources et vous avez des endroits où le signal est intégré, puis redistribué. Et donc, il y a véritablement la notion de réseau de signalisation qui provient complètement de ces fameux oncogènes qu'on a découverts il y a maintenant presque un siècle et qui vont nous permettre permettre, peut-être un jour, de comprendre réellement comment fonctionne une cellule normale. La compréhension du fonctionnement de la cellule normale nous permettra bien évidemment de comprendre comment traiter de manière adaptée les cancers. Parce qu'aujourd'hui, les traitements qu'on utilise, c'est de moins en moins le cas, mais quand même, dans la plupart des cas aujourd'hui quand même encore, les traitements que nous utilisons, ce sont des bombes atomiques. Vous utilisez des bombes atomiques pour détruire des moustiques. Et le problème de ces moustiques, c'est qu'en les détruisant, eh bien, vous détruisez beaucoup d'autres choses autour qui n'ont rien demandé et qui devraient être conservées. On utilise donc des éléments qui ont une activité, pléiotropique, c'est-à-dire qui ne fait pas du tout la différence entre les cellules cancéreuses et les cellules non cancéreuses, et du coup, vous n'êtes pas très efficace. Donc, l'idée, c'est que en comprenant de manière très avancée ces mécanismes et en étant capable d'identifier chez chacun des patients quelles sont les voies qui sont modifiées et sur lesquelles on va pouvoir agir, on pourra mettre en place ce qu'on appellera maintenant des médicaments intelligents qui ne vont agir que sur les cellules malades et pas sur les cellules qui n'ont rien demandé. Et donc, cibler la réponse anticancéreuse, c'est tout le but des 10 à 20 prochaines années. On a déjà réussi dans certains cancers, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler, je travaille moi sur une maladie qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique. La leucémie myéloïde chronique, on ne va pas dire qu'elle est guérie parce que ce n'est pas vrai. Mais on a aujourd'hui un médicament extrêmement intelligent qui ne touche que les cellules qui sont atteintes, les cellules qui possèdent la mutation. Et donc, on a quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, les patients, je ne dirais pas qu'ils sont guéris, parce que malheureusement, la mutation persiste. On ne tue pas complètement les cellules. Mais on a réussi à atteindre uniquement les cellules malades sans toucher au reste de l'organisme. Voilà, je crois que j'ai fini. Et je vous remercie de votre attention.
Bonsoir. Pour ma part, après cette présentation sur les mécanismes, moi je vais parler de la relation qu'il y a entre le sang, les vaisseaux sanguins et le cancer. Car comme vous allez le voir, il y a absolument une relation très intime entre le sang, les vaisseaux sanguins et le cancer. Donc pour vous décrire cette relation qu'il y a entre le sang, la circulation sanguine et le développement tumoral, durant à peu près 15 minutes, je vais vous parler des concepts fondateurs qui ont abouti à l'émergence de cette théorie de la relation entre les vaisseaux sanguins et le cancer. Après, je vais vous présenter comment ce concept s'est transformé en thérapie ou en nouvelle thérapie. C'est ce qu'on appelle les nouvelles thérapies ou les nouvelles approches thérapeutiques antitumorales. Et finalement, je vous présenterai ce que je pense être des perspectives intéressantes, aussi bien de recherche que de thérapie. Donc, je vais commencer par le premier point, les concepts fondateurs. Mes collègues vous ont longuement parlé des mécanismes qui aboutissent à la formation d'une tumeur. Donc, on est toujours au stade de tumeur primaire. C'est-à-dire, c'est quelques cellules qui ont proliféré et qui ont formé ici, donc on a ici quelques cellules qui ont proliféré et qui constituent une masse. On est au stade tumeur primaire où il n'y a pas de manifestation autre, c'est-à-dire que personne ne peut se rendre compte qu'il a ces cellules-là qui prolifèrent parce qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, quelle est la conséquence de l'apparition de ces cellules qui prolifèrent ? Ces cellules vont modifier leur environnement. Cette masse cellulaire va localement modifier l'environnement, donc on peut se situer dans n'importe quel organe. On peut se dire, par exemple, qu'on est dans le foie, et donc ces cellules-là se sont mises à proliférer ici. Elles ont produit une masse, et cette masse va localement modifier l'environnement. En quoi se manifeste cette modification, cette micro-modification de l'environnement ? C'est relativement simple à comprendre. On a une masse cellulaire qui se développe et elle va se mettre, comme mes collègues vous l'ont dit, ces cellules prolifèrent très vite. Donc, elles se mettent à consommer de l'oxygène, du sucre et tout ce qui passe par là qui était initialement destiné à l'organe qui est infecté, c'est-à-dire, par exemple, ici, on est dans le foie. Cette baisse d'oxygène, de sucre et d'autres nutriments aura bien évidemment des conséquences. Cette baisse d'oxygène, c'est ce qu'on appelle, nous, un peu en termes spécialisés, de l'hypoxie. Hypo, c'est baisse, oxy, c'est pour l'oxygène. Cette hypoxie produite par le fait que les cellules se divisent trop vite, elles consomment trop d'oxygène, va aboutir dans la grande majorité des cas à la mort de la tumeur primaire, et on en reste là. Il y a beaucoup de tumeurs primaires qui apparaissent et qui vont mourir simplement de mort naturelle parce qu'elles n'arrivent plus à trouver assez d'oxygène, assez de nutriments pour continuer. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les tumeurs primaires. Un certain nombre de tumeurs primaires vont lutter pour leur survie, un peu comme tout le monde. Et comment est-ce qu'elles vont faire pour lutter pour leur survie ? Cet état d'hypoxie, de baisse d'oxygène, va faire que la tumeur va envoyer ou va sécréter ce qu'on appelle des protéines ou ce que j'appelle, moi, des signaux d'alarme, des signaux de survie. Donc, vous avez ici la tumeur, je reviens à tout à l'heure. Vous avez ici la tumeur qui a du mal à trouver de l'oxygène. Elle commence à mourir parce que c'est ce qui est un peu représenté ici en gris. Et donc, elle va envoyer ces signaux d'alarme. Et ces signaux d'alarme vont diffuser un peu partout dans l'environnement de la tumeur. Que dit la tumeur ? Elle dit que si je n'ai pas très vite de l'oxygène, je vais mourir. Et qui est-ce qui peut ramener de l'oxygène ? C'est l'hémoglobine, parce que l'hémoglobine se trouve dans les globules rouges et les globules rouges se trouvent dans le sang. Donc, implicitement, la tumeur a besoin de l'arrivée du sang. Donc, ces facteurs qui sont sécrétés par la tumeur vont diffuser, vous voyez ici un capillaire sanguin, et vont aller vers le capillaire sanguin, en général le plus proche de la tumeur, pour activer la formation de nouveaux capillaires sanguins. Et ces nouveaux capillaires sanguins vont venir vers la tumeur pour l'alimenter. Donc, je reviens un peu là-dessus. Donc, vous voyez ces facteurs ou ces signaux d'alarme qui sont sécrétés par la tumeur et qui vont aller vers les vaisseaux sanguins pour activer la formation de nouveaux capillaires. Maintenant, on connaît l'identité de ces facteurs. Le facteur majeur, il s'appelle le VEGF. Ça vient de l'anglais, mais vous avez ici le nom. Mais on va l'appeler le facteur de croissance vasculaire. Ce facteur-là, qui est sécrété par la tumeur quand elle est sur le point de mourir, est le facteur majeur qui va initier la formation de nouveaux capillaires sanguins. La découverte de ce facteur a pris à peu près 17 années de recherche. En effet, l'existence de ce mécanisme a été postulée dans les années, je crois, la fin des années 60, par un chercheur et médecin américain, Judah Folkman, qui vient de mourir, qui est mort le 14 janvier 2008, et qui est rentré dans la légende parce que dans ce domaine-là, il a pratiquement tout fait. Il est pour ce domaine-là ce que Louis Pasteur a été pour les vaccins et la génération spontanée et les micro-organismes. Que dit Judah Folkman? Il a dit que la tumeur ne peut pas se développer s'il n'y a pas l'arrivée de vaisseaux sanguins. Et pour avoir dit ça, il a été, comme beaucoup d'exemples dans l'histoire de la science et de la médecine, il a été marginalisé, il a été traité de charlatan. Et durant pratiquement 3-4 années, il ne pouvait recruter personne pour travailler avec lui, parce que tous les gens qui venaient travailler, on leur disait « il faut partir » parce qu'il raconte que sans l'arrivée de vaisseaux sanguins, la tumeur ne peut pas se développer. Et pourtant, il va persévérer et après 17 années de travaux, ce qu'il avait appelé initialement le postulat de l'angiogénèse, plusieurs chercheurs vont identifier l'existence de ce mécanisme, ils vont identifier cette molécule. Et parmi les chercheurs qui ont identifié cette molécule, il y a Jean Plouet, qui est l'actuel directeur adjoint de l'Institut des vaisseaux et du sang, qui se trouve à la Riboisière, à Paris. Donc l'existence de ce mécanisme est réelle, le coupable, c'est ce facteur-là. Alors comment se produit... Comment est-ce que ce facteur arrive-t-il à induire la formation de vaisseaux sanguins? Donc vous avez la tumeur qui sécrète ce facteur-là. Ce facteur va aller vers la surface des vaisseaux sanguins, donc à la surface des vaisseaux sanguins. Et dans la surface des vaisseaux sanguins, comme l'a expliqué Nicolas tout à l'heure, on a des récepteurs à ce facteur-là. Et c'est un peu comme un système de clés et de serrures. Ce facteur-là ne reconnaît que ce récepteur, et ce récepteur ne reconnaît que ce facteur-là. Donc quand la clé trouve la bonne serrure, qu'est-ce qui va se passer? Ce facteur va se fixer sur son récepteur, et il va activer la formation de vaisseaux sanguins. Et ces récepteurs sont extrêmement denses au niveau des vaisseaux sanguins. Bien évidemment, on peut discuter après pourquoi est-ce que les vaisseaux sanguins ont ce récepteur-là, tout est fait pour prévoir le besoin de créer ou de former de nouveaux vaisseaux sanguins. Et c'est une question philosophique qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on a tout de prévu pour éventuellement se remettre à fabriquer des vaisseaux sanguins? Alors, une fois que ce facteur rencontre son récepteur, ce facteur va activer son récepteur, ce que j'ai représenté ici. D'ailleurs, même en termes spécialisés, on dit « allumer ». Des voies de signalisation, donc les voies que Nicolas montrait tout à l'heure. Et quand ces voies de signalisation, donc vous avez le facteur qui trouve son récepteur, il va l'allumer, et quand ces voies de signalisation sont allumées, ça va déclencher la cascade de réaction dont une partie vous a été montrée, et cette cascade de réaction va déclencher la formation d'un nouveau vaisseau sanguin qui viendra alimenter la tumeur. Donc vous voyez à peu près comment ça se passe. Vous voyez, la tumeur est quelque part en dehors de la diapo. Vous voyez ce facteur-là qui est ici présent, qui non seulement déclenche la formation du vaisseau sanguin, mais qui va guider un peu le vaisseau sanguin vers le lieu où se trouve la tumeur. C'est ce qu'on appelle un peu, en termes spécialisés, du chimiotactisme, c'est-à-dire qu'il va guider les cellules vers le lieu où se trouve la tumeur, jusqu'à arriver à l'endroit où se trouve la tumeur. Alors, le capillaire sanguin néoformé arrive à la tumeur, qui est sur le point de mourir, à la tumeur primaire. Et au niveau de cette tumeur primaire, bien évidemment, il y a, et c'est une notion quand même fondamentale, il y a une notion de gradient. C'est-à-dire, plus on se rapproche de la tumeur, plus il y a la concentration ou la quantité de ces facteurs est forte, plus le vaisseau va rentrer à l'intérieur de la tumeur. Le résultat, c'est que fait le vaisseau sanguin, que fait le capillaire? Il ramène les globules rouges, qui ramènent de l'hémoglobine, qui ramènent de l'oxygène. Donc on va repasser d'un état qui est un état d'hypoxie, c'est-à-dire de baisse d'oxygène, à un état de normoxie, c'est-à-dire que la concentration d'oxygène devient normale. Et que fait la tumeur? Bien évidemment, la tumeur ne demande que ça. Elle va se mettre à proliférer, elle se remet à respirer, elle s'alimente et elle grossit. Mais le problème de la tumeur n'est pas résolu parce que l'une des caractéristiques des cellules tumorales, comme mes collègues vous l'ont présenté, c'est que c'est des cellules qui ont une croissance anarchique, c'est-à-dire qu'elles se divisent trop vite, et elles se divisent notamment trop vite par rapport à cet afflux de sang qui bientôt va devenir insuffisant. Donc la tumeur respire, elle s'alimente, elle grossit, et bientôt, rebelote, on retombe dans le même problème. Il n'y a plus assez d'oxygène pour que la tumeur puisse continuer. Donc on va avoir un nouvel état d'hypoxie. Et à nouveau, il y a un état d'hypoxie, la tumeur risque de mourir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sécréter encore plus de facteurs pour ramener plus de vaisseaux sanguins et ainsi de suite. Ce qui est important, et ça a été montré très récemment, c'est qu'à chacun de ces cycles, la tumeur risque de mourir. Et il y a beaucoup de tumeurs qui disparaissent sans que jamais on se rende compte, simplement parce qu'elles n'ont pas sécrété assez de facteurs ou que les capillaires sanguins ne sont pas arrivés assez vite. Et donc la tumeur a disparu par mort naturelle. Alors, vous l'avez compris, on va vivre plusieurs cycles qui sont simplement caractérisés par la même chose. On peut commencer par n'importe où. Donc, on a une phase de croissance, les cellules prolifèrent. Bientôt, il n'y a plus assez d'oxygène, donc on est dans un état d'hypoxie. Cette baisse d'oxygène entraîne la sécrétion de ce facteur, le VEGF, qui va entraîner la formation de vaisseaux sanguins. On va revenir à un état de normoxie. Le retour à l'état de normoxie va entraîner la croissance de la tumeur et bientôt, il n'y aura plus assez de sang et donc il va falloir encore ramener des vaisseaux sanguins. Et c'est pour ça qu'on va atteindre des tumeurs qui sont extrêmement vascularisées. Et Judah Folkman raconte que l'une des raisons pour lesquelles il a postulé l'existence de ce phénomène, c'est que quand il était officier dans la marine américaine, il était médecin, il est pédiatre de formation, et donc chaque fois qu'il prélevait des tumeurs, il disait mais elles sont plus vascularisées que les tissus normaux. Et il a plusieurs fois fait part de sa remarque à ses directeurs, et les gens lui disaient mais c'est un épiphénomène, c'est pas important. Et c'est à partir de là, c'est à partir de cette observation macroscopique qu'il a développé toute une théorie et tout un concept. Alors, l'autre rôle de la vascularisation n'est pas simplement d'alimenter la tumeur. Vous avez ici des cellules tumorales et vous avez ces capillaires qui rentrent à l'intérieur de la tumeur, qui sont en contact très étroit avec les cellules tumorales. Et l'autre propriété du facteur, on a vu que c'est un facteur qui va induire la formation des vaisseaux sanguins, qui va les guider, donc un effet ce qu'on appelle chimiotactique, mais aussi c'est un facteur perméabilisant. Localement, la perméabilité des vaisseaux sanguins va devenir très grande, et donc à ce niveau-là, vous allez commencer à avoir des cellules tumorales qui vont passer dans les capillaires sanguins. Donc les cellules tumorales passent dans la circulation et là encore, ce n'est pas du tout gagné pour la tumeur. Souvent, une fois que les cellules tumorales passent dans la circulation, elles vont être attaquées par le système immunitaire et elles vont parfois mourir, là encore, de mort naturelle, non pas par un manque d'oxygène, mais simplement, c'est une propriété des cellules. C'est comme pour les êtres humains, on a besoin d'avoir un appui quelque part pour vivre. Quand les cellules passent en circulation, elles n'ont aucun appui, donc elles n'ont aucune adhérence, et à ce niveau-là, les cellules sont extrêmement fragiles. Donc, le rôle de la circulation va être de prendre ces cellules tumorales et les faire circuler dans le sang jusqu'à un moment où celles qui survivent, il y en a très peu à partir, je ne me rappelle plus des chiffres, mais je crois que c'est moins du 1 pour 1000. Les cellules qui arrivent à survivre l'ensemble de ces étapes vont se déposer. Par exemple, j'ai pris l'exemple du cancer du foie. Elles vont passer dans la circulation et elles vont se déposer au niveau des poumons, par exemple. Et là, elles vont démarrer des tumeurs secondaires et donc l'apparition de métastases. Donc voilà le concept fondateur de ce qu'on appelle le concept fondateur de l'angiogénèse ou la formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour alimenter la tumeur. Ce concept fondateur a abouti au développement de nouvelles approches thérapeutiques. Et là encore, je reviens à Judah Folkman parce qu'il a réellement tout fait dans ce domaine-là et comme il est mort le 14 janvier, donc il est déjà rentré dans la légende. Voilà le postulat initial de Judah Folkman quand il était jeune. Il avait dit que les tumeurs ne peuvent pas se développer dans un environnement avasculaire, c'est-à-dire dans un environnement non vasculaire. Et à la fin de sa carrière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce mécanisme, que l'asphyxie du tumeur primaire représente un mécanisme naturel de défense contre le cancer. Donc, au lieu d'avoir une approche thérapeutique qui va aller attaquer les cellules cancéreuses, il suffit d'essayer de reproduire ce mécanisme naturel de défense contre le cancer, donc d'essayer d'étouffer la tumeur. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti de son hypothèse de départ qui est extrêmement simple. Ce qui est étonnant, c'est la simplicité de tous les concepts qu'il a développés. Il a dit que la croissance de la tumeur, comme on l'a vu, dépend de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, donc dépend de l'angiogénèse. Ce qu'on appelle l'angiogénèse. Donc il suffit d'inhiber l'angiogénèse. Ici, on a un exemple d'inhibiteur que je vais vous montrer tout à l'heure. Ces capillaires sanguins vont régresser. Et si les capillaires sanguins régressent, d'une part, d'autres tumeurs ne pourront pas se développer, mais même celles qui avaient des vaisseaux sanguins vont être étouffées et elles vont mourir de mort naturelle. Donc le but de cette nouvelle approche thérapeutique, c'est de dire on va asphyxier la tumeur en reproduisant simplement le mécanisme naturel, mais en l'amplifiant. Alors, donc simplement une comparaison entre les thérapies dites classiques, c'est-à-dire la chimiothérapie, la radiothérapie que Nicolas il a donné un très bel exemple en disant c'est vraiment prendre une bombe atomique pour attaquer un moustique, je crois. Donc le problème des thérapies classiques, c'est qu'elles ciblent des cellules tumorales. Donc, on va donner un médicament ou un produit qui va aller tuer des cellules. Et en général, les dommages collatéraux sont extrêmement importants. Les nouvelles ou les thérapies nouvelles, c'est de dire on va étouffer la tumeur simplement en empêchant la croissance ou la formation de ces nouveaux vaisseaux sanguins. C'est relativement récent. C'est rentré dans ce qu'on appelle le domaine grand public. Pour la première fois en 1999, il y a eu un grand congrès de cancérologie et il y a un très bel article dans Le Monde qui raconte un peu aussi bien l'historique, qui date d'ailleurs, c'est le journaliste avait assisté au congrès, il raconte un peu comment le concept s'est développé et ça s'appelle une nouvelle approche thérapeutique du cancer est confirmée. Pourquoi est-ce qu'elle est confirmée? Parce que les premiers résultats ont été trouvés chez les patients, ont été données sur des patients. Quelle était la problématique de départ? La problématique, tout simplement, c'est qu'il faut inhiber les vaisseaux tumoraux sans affecter les vaisseaux normaux. Parce que tout le monde le conçoit très bien, si on a un médicament qui ferme les vaisseaux et que ça touche les vaisseaux normaux, on ne va plus mourir de cancer, mais on va mourir d'une défaillance de tous les organes, puisque tous les organes dépendent du sang. Alors là, l'idée géniale, avec beaucoup de chance qu'a eu l'équipe de Judah Folkman, en fait, ce n'est pas proprement lui, mais les gens travaillant avec lui, c'est qu'ils se sont rendus compte que la différence majeure entre les vaisseaux qui alimentent la tumeur et les vaisseaux qui alimentent le cœur ou le foie ou les reins, c'est que les vaisseaux tumoraux sont dépendants du VEGF. Autrement dit, si on leur retire ce facteur-là, même quand ils sont déjà formés, ces vaisseaux-là vont mourir de mort naturelle et avec leur mort, ou du moins ils vont régresser, ils vont faire régresser la tumeur. Et donc la solution, c'est qu'il faut neutraliser le VEGF ou ses récepteurs, parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la clé ou la serrure, donc soit qu'on enlève la clé, soit qu'on bloque la serrure, et ça marche. Ça marche, le premier médicament est... L'Avastine, je crois qu'il est déjà utilisé. Donc voilà le principe, comment marche le premier médicament. Vous avez ici ce facteur, le VEGF, dont dépendent les vaisseaux tumoraux. Il y a une molécule. Tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lie à ce facteur-là. Et en se liant à ce facteur-là, elle empêche de se lier à ses récepteurs et donc d'activer la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Et ça marche aussi bien. Il y a eu, bien évidemment, avant de passer chez l'homme, il y a eu ce qu'on appelle des tests sur des cellules, donc des tests in vitro, des tests chez l'animal. Et ça marche chez l'homme. Il y a des centaines, voire des milliers de patients qui sont traités maintenant avec cette, cette molécule qui neutralise le VEGF. Et le résultat, c'est qu'effectivement, les vaisseaux tumoraux régressent, les vaisseaux normaux ne sont pas affectés. Et donc, c'est le premier traitement anti-angiogénique qui est rentré dans l'histoire et donc qui ouvre la porte à d'autres traitements anti-angiogéniques. Je reviens souvent à la même personne, Judah Folkman, parce que là encore, il ne s'est pas arrêté là. Son premier traitement marchait déjà chez l'animal, mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, mais c'est quand même étrange que, par exemple, une tumeur primaire reste à peu près dormante durant une longue période, et un jour, cette tumeur primaire se met à se développer. De même, il y a des gens qui, par exemple, vont avoir, ou des populations qui vont avoir une incidence de développement de tumeurs plus faible que d'autres, c'est qu'il y a quelque part une raison. Et donc, il a postulé, maintenant c'est confirmé comme théorie, c'est qu'au fait, à tout moment dans le corps, on a une balance, un équilibre entre les facteurs qui induisent la formation des vaisseaux, donc les activateurs de la formation de ces vaisseaux, et les facteurs qui inhibent la formation des vaisseaux sanguins. Et donc, normalement, quand une tumeur primaire se forme et que la balance est du côté des inhibiteurs, cette tumeur ne va jamais être vascularisée simplement parce que la balance est en faveur des inhibiteurs. Et donc, il avait postulé que ce qui arrive, c'est que, pour une raison ou une autre, il y a rupture de cet équilibre et on se met à fabriquer plus d'activateurs où la concentration de ces activateurs va augmenter et donc la tumeur se vascularise. Pourquoi je reviens à cette histoire? Parce qu'il s'est dit, et ça a été vraiment un coup de génie, il s'est dit, cela veut dire que dans la nature, dans l'organisme, il y a des inhibiteurs naturaux de l'angiogénèse, il suffit d'aller les trouver. Et donc, il a réussi à trouver les trois inhibiteurs majeurs naturels de l'angiogénèse, et voilà comment il s'est pris. Donc, le premier, c'est l'endostatine, je crois qu'il est déjà utilisé en thérapie. Le deuxième, c'est la fumagiline. Et le troisième, c'est l'angiostatine. Et je crois que les essais cliniques de l'angiostatine sont sur le point de se terminer. Chacun de ces inhibiteurs, la découverte de ces inhibiteurs naturels dont il avait postulé l'existence avant même de les trouver, est une histoire fantastique. Pour l'endostatine, Judah Folkman raconte qu'il s'était posé une fois la question, il s'est dit... Pour aller trouver les inhibiteurs de l'angiogénèse, il faut aller les trouver dans le tissu où il n'y a pas de vaisseau sanguin. Et une fois, il discutait avec ses étudiants, et un de ses étudiants lui a dit « Pourquoi est-ce que dans le cartilage, il n'y a pas de vaisseau sanguin ?» Et tout de suite, c'était Eureka pour lui. Il s'est dit « C'est que dans le cartilage, il doit y avoir des inhibiteurs de la formation des vaisseaux sanguins, parce qu'après tout, ça pourrait expliquer... l'absence de vaisseaux sanguins dans le cartilage. Donc c'est un peu une histoire absolument fantastique puisqu'il a commandé une cinquantaine de carcasses de vaches qu'il a fait rentrer illégalement au laboratoire. Ils ont passé toute la nuit à prélever le cartilage et après 3 ou 4 années de purification, il a trouvé cet inhibiteur, l'endostatine, qui est actuellement sur le marché aux États-Unis, je crois bientôt en Europe. Le deuxième inhibiteur, c'est aussi, là où c'est pas un coup de génie, mais c'est un coup de chance. C'est un étudiant de Judah Folkman qui avait un tissu en culture et il a été contaminé, comme ça nous arrive à nous tous, par un champignon. Et c'est une histoire analogue à la découverte des antibiotiques par Alexandre Fleming. Dans la majorité des cas, qu'est-ce qu'on fait? On jette la boîte et on se dit l'étudiant a fait une erreur, mais Judah Folkman a eu la présence de l'esprit de regarder le tissu. Il a vu que ce champignon, contrairement aux autres contaminations par les champignons, changeait le phénotype des cellules, l'aspect des cellules. Il s'est dit il y a vraisemblablement quelque chose dans ce champignon-là qui change quelque chose à ces cellules vasculaires. Donc au lieu de faire la culture des cellules vasculaires, il a repris le champignon, il l'a mis en culture, et à partir de ce champignon, il a effectivement réussi à extraire le principe qui est aussi utilisé actuellement en thérapie. Et le dernier, c'est l'angiostatine, c'est probablement l'histoire la plus incroyable, Judah Folkman était à la fin de sa carrière, il était pratiquement sur le point d'arrêter. Mais un problème, il avait dit, j'avais assisté, il est extraordinaire quand il raconte l'histoire de ses découvertes, il avait dit, je ne vais quand même pas quitter le domaine sans résoudre l'une des grandes énigmes de la cancérologie. En effet, depuis des années, on sait que lorsqu'un patient a une tumeur primaire et que le chirurgien procède à l'ablation de cette tumeur primaire, ça arrive dans des cas assez communs que quelques mois après, le patient se présente, la tumeur primaire a été enlevée, mais le patient se met à développer des tumeurs un peu partout dans l'organisme. Et souvent, et d'ailleurs ce qui avait déclenché ce travail chez Judah Folkman, c'est que l'un de ses amis qui était chirurgien était poursuivi en justice parce qu'il avait fait une ablation de tumeur primaire et la famille du patient avait accusé le chirurgien qu'il avait fait une erreur. Donc il s'est dit, c'est que finalement il y a un phénomène qui échappe à tout le monde, c'est que lorsqu'on fait l'ablation de la tumeur primaire elle-même fabriquait des inhibiteurs de l'angiogénèse. Donc il est parti comme ça, il a dit dans un congrès, il a dit, j'ai la solution à ce problème-là, c'est que la tumeur, elle fabrique des inhibiteurs de l'angiogénèse, ce qui paraissait absolument contradictoire, puisque la tumeur a intérêt à faire ramener des vaisseaux sanguins. Mais son explication, qui n'est toujours pas confirmée, c'est que la raison pour laquelle la tumeur fabrique des inhibiteurs de l'angiogénèse, c'est que ces inhibiteurs vont diffuser très loin, vont empêcher d'autres vaisseaux, d'autres organes d'avoir des vaisseaux pour détourner tous les vaisseaux vers elle. Donc la tumeur fabrique à la fois des activateurs et des inhibiteurs. Il a pris le pari fou qui a été réalisé, je crois, vraiment à la fin de sa carrière, de prendre des tumeurs et après quelques années de travail, il a effectivement extrait ce principe actif qui est le plus puissant actuellement connu inhibiteur de l'angiogénèse. C'est l'angiostatine qui est fabriquée par la tumeur elle-même. Donc c'est quand même... Donc, comme je le disais, ces médicaments, cette nouvelle approche est utilisée en voie d'être utilisée en thérapie. Et leur avantage, c'est qu'ils ont une très grande efficacité, peu ou pas d'effets secondaires. Bien évidemment, pour l'angiostatine, elle est décrite comme ayant autant d'effets secondaires que l'aspirine. Donc, c'est quelque chose, ce qui a conduit Judah Folkman de dire que d'ici quelques années, on pourrait traiter les cancers un peu comme on traite une angine, ou c'est-à-dire quelques comprimés pendant quelques semaines. Je ne sais pas si ça va se faire d'ici là, mais en tout cas, l'utilisation de ces facteurs se fait de plus en plus, elle fait réellement son rentrée dans la clinique. Alors, quelles sont les perspectives de recherche et de thérapie avant de terminer? On est tous, au fait, le produit de l'angiogénèse. Parce que très tôt dans le développement embryonnaire, on ne peut pas exister, on n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas le développement de ce cordon ombilical qui va permettre à l'embryon de se nourrir. En plus, durant le développement embryonnaire, on a deux phénomènes qui coexistent, qui sont la formation de vaisseaux sanguins à partir du néant, à partir de rien, à partir de cellules, ce qu'on appelle la vasculogénèse, c'est-à-dire l'émergence de vaisseaux sanguins. En même temps, chez l'embryon, il y a une activité angiogénique extrêmement puissante. Donc, l'une des grandes perspectives actuellement de recherche est d'identifier chez l'embryon si les activateurs pour comprendre les mécanismes, mais surtout, et je pense que d'ici quelques années, on sortira des inhibiteurs de l'angiogénèse de chez les embryons. Donc, bien évidemment, on ne va pas prendre des embryons et les broyer. Maintenant, on a un substitut, on a des cellules embryonnaires, et avec des cellules, on peut reproduire un certain nombre de phénomènes. Quelles sont les autres perspectives de recherche qui s'offrent dans ce domaine? Tout à l'heure, je vous disais que lorsque la tumeur primaire grossit, elle risque de mourir. Et effectivement, non seulement elle risque de mourir, mais c'est un phénomène très connu. C'est que donc cette tumeur primaire qui commence à s'asphyxier, même quand elle est réalimentée, c'est souvent un peu tard. Donc on a un peu de cellules qui sont déjà mortes quand le flux ou l'apport sanguin arrive. Donc la mort... On pense de plus en plus que la mort des cellules libère des facteurs qui vont stimuler la prolifération des autres cellules. Le concept est absolument extraordinaire. Ça serait que c'est la mort qui véhicule la vie. Et de plus en plus, il y a des articles publiés qui montrent que lorsque les cellules meurent, elles libèrent des facteurs qui vont permettre aux autres de survivre. L'autre point, c'est là encore un concept relativement nouveau, c'est que cette tumeur primaire dans laquelle les cellules se divisent trop vite et de manière un peu anarchique, cette tumeur primaire est le siège d'un phénomène qu'on appelle la phagocytose, c'est des cellules qui mangent les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a, déficit en oxygène. Donc, c'est les cellules les plus robustes qui vont survivre. Et ce phénomène de phagocytose a été décrit relativement récemment. Et on ne sait pas quels sont les facteurs qui modulent cette activité de phagocytose, aussi bien dans la tumeur que dans d'autres contextes biologiques. Et c'est quelque chose qui probablement amènera une nouvelle voie de voir les choses, une nouvelle manière de voir les choses. Jean Bernard, qui était président de l'Académie des sciences, qui est le père fondateur de l'hématologie, avait dit une fois, dans le sang coexistent le pire et le meilleur. Et Judah Folkman avait dit, c'est dans le sang que se cachent les inhibiteurs qu'on recherche. Donc de plus en plus, c'est dans le sang qu'on trouve finalement les inhibiteurs ou des débuts d'inhibiteurs. Donc je vais terminer, il me reste quelques minutes, pour vous présenter des choses qu'on fait nous-mêmes ou qu'on est en train de faire ou qu'on voudrait faire. Donc ici, vous avez des expériences. On peut faire des expériences d'angiogénèse chez l'animal. Donc on prend la souris, on injecte un gel. Et dans ce gel, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre, par exemple, du VEGF. Et après quelques semaines, on extrait le gel de l'animal et on regarde, ça se voit à l'œil nu. Quand il y a du VEGF, ce gel devient très rouge. Pourquoi ? Parce qu'il s'est vascularisé, il y a du sang. Donc on peut dire que ce facteur a activé l'angiogénèse, parce que par rapport au témoin qui n'est pas devenu rouge, on n'a pas d'effet. Donc on travaille par exemple sur un inhibiteur qu'on appelle pour le moment, pour des raisons de confidentialité, qu'on appelle l'agent Guissen-Poitiers, parce que c'est un travail qu'on fait en collaboration avec des collègues à Guissen. Et vous voyez que par exemple, lorsqu'on met dans ce gel et du VEGF et cet agent-là qu'on espère un jour sera prouvé comme étant un agent anti-angiogénique, on a une baisse très sensible de la vascularisation du gel. Donc ça serait effectivement un inhibiteur de l'angiogénèse. Donc est-ce que c'est un inhibiteur de l'angiogénèse ou pas ? Il faudra probablement plusieurs années de travaux et d'expériences pour le confirmer. Là aussi, c'est des expériences qu'on fait au laboratoire, mais qui sont très simples. On prend la souris, on injecte des cellules tumorales et après quelques semaines, on ouvre la peau et on prélève la tumeur et on peut mesurer plusieurs choses. On peut simplement mesurer la taille de la tumeur. Et si on a un inhibiteur, on peut voir si l'inhibiteur est efficace ou pas. Donc ici, par exemple, vous voyez, c'est un double dissimètre, une règle. On peut mesurer la taille de la tumeur. On peut aussi simplement aller nu au microscope, regarder la vascularisation de la tumeur. Est-ce qu'il y a plus de vaisseaux qui arrivent à la tumeur ou pas ? On peut, par exemple, si on injecte des cellules tumorales sous la peau, on peut aller prélever les poumons et dire est-ce que oui ou non, il y a eu métastase ou pas ? Parce que s'il n'y a pas eu de métastase, c'est que le facteur sur lequel on travaille est un inhibiteur de l'angiogénèse. Alors, le dernier point sur les perspectives de recherche et de thérapie dans ce domaine, c'est important, et Nicolas disait quelque chose de très similaire, la recherche sur l'angiogénèse ne concerne pas que le cancer. Il ne faut jamais se voiler la face et dire « je ne vais faire que ça ». Le travail sur les facteurs qui inhibent l'angiogénèse a abouti à l'un des meilleurs de traitements connus actuellement pour les rétinopathies diabétiques. Pourquoi ? Parce que dans le cas des rétinopathies diabétiques, il y a une vascularisation extensive de la rétine. Et ces facteurs-là, et cette vascularisation de la rétine, c'est de l'angiogénèse, c'est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc, c'est ce domaine-là, qui est du domaine de la recherche sur le cancer, a abouti à un traitement de maladies qui sont du domaine de l'ophtalmologie. Vous avez ici une photo que j'aime beaucoup parce que vous avez ici le cerveau. Et si on dessous la matière grise et la matière blanche, qu'est-ce qui reste? Il reste les vaisseaux. Et donc finalement, le cerveau humain ou de l'animal est fait plus de vaisseaux sanguins et de sang en termes de poids humide, on dit poids humide, que de matière grise et de neurones. Donc finalement, le réseau vasculaire dans le cerveau est extrêmement important. Et actuellement, il y a toute une théorie qu'en quoi toutes les maladies ou une grande partie des maladies neurodégénératives du type Alzheimer, Parkinson, auraient une origine vasculaire. C'est-à-dire que le facteur déclenchant n'est pas de la mort des neurones, n'est pas un problème avec les neurones, mais c'est simplement au niveau de ces capillaires très petits, ces micro-capillaires sanguins, il y a des changements de perméabilité et laisseraient passer des substances qui ne sont pas censées traverser la barrière hémato-encéphalique. Et donc finalement, l'un des grands domaines, c'est est-ce que les facteurs angiogéniques jouent un rôle dans la perméabilité vasculaire? Et on sait maintenant de manière confirmée que, par exemple, le VEGF dont j'ai parlé tout à l'heure est un facteur qui joue un rôle absolument crucial dans la perméabilité de la barrière qui sépare le sang du cerveau. On sait aussi qu'un certain nombre de cellules du cerveau fabriquent ces facteurs-là, donc il y a vraiment beaucoup de travaux qui vont aller dans cette direction. Je voudrais terminer par citer les sources qui m'ont servi à préparer ce diaporama. D'abord, comme vous l'avez imaginé, j'ai beaucoup utilisé des documents qui viennent soit de Judah Folkman ou des membres de son équipe. J'ai aussi utilisé beaucoup de documents qui émanent de l'Institut des vaisseaux et du sang qui est à la Riboisière à Paris. J'ai aussi utilisé des documents qui viennent, je ne fais pas de publicité, de Roche et Genentech, qui sont les premières compagnies ou boîtes pharmaceutiques qui ont mis sur le marché cet inhibiteur du VEGF. Je voudrais terminer par dire, et c'est important, que ce qu'on fait, c'est grâce au travail de beaucoup de collègues. Donc on a Laetitia Coussin qui est technicienne et qui nous aide beaucoup, Aurore Gillet qui fait sa thèse, Arnaud Monvoisin qui est maître de conférence et qui nous a apporté toute cette expertise sur les tumeurs, Michel Philippe qui me fait l'amitié d'être présent, qui dépend du Centre national de la recherche scientifique et qui nous a apporté tout son savoir-faire dans l'étude de la signalisation. Et on a de nombreuses collaborations. Valérie Corona pour tout ce qui est travail sur le cerveau, c'est la grande spécialiste des cellules souches neuronales. Yves Courtois pour le travail sur la rétine. Florian Guillot pour la phagocytose. Et on vient d'avoir un financement européen très conséquent pour espérer accueillir un chercheur russe qui viendrait développer cet aspect phagocytose, notamment dans les tumeurs. Pablo Garcia qui est à Barcelone, Sandeep Kenzie qui est à Gießen, qui a été le collègue qui a identifié ce facteur, Criso Canto qui est à Londres, et Fabien Agas qui est à Coimbra au Portugal, qui est au fait l'un des grands succès de Poitiers, puisqu'elle a fait sa thèse à Poitiers il y a de cela 2 ans, qui est partie au Portugal, et qui est vraiment une star montante dans le domaine, puisqu'elle vient d'être nommée chef d'équipe. Et avec l'ensemble de ses collègues, nous espérons former un réseau européen pour obtenir des financements européens. Je tiens à dire que la recherche dépend de l'argent et nous avons été très généreux de recevoir des financements de Retina France, de la Ligue nationale contre le cancer et comme je l'ai dit, on vient d'avoir un contrat avec la Commission européenne que je remercie. C'est la dernière diapo, je vous le promets. C'est quelqu'un d'un autre bord, d'un autre horizon, Paul Valéry, qui était poète, qui était écrivain, et d'un autre siècle, qui avait dit « le corps fait du sang, qui fait du corps, qui fait du sang ». Donc, quelle analogie avec l'angiogénèse. Et je vous remercie.
Merci pour ces deux exposés très intéressants, très riches. Donc, si parmi l'assistance, il y a quelques questions, voilà, il nous reste un petit quart d'heure, si vous souhaitez intervenir, voilà, une première question. Merci.
Oui, pour rester dans le sang, apparemment, il n'y a pas de cancer du cœur. Et est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que c'est connu ou
Pardon, excusez-nous.
Apparemment, il n'y a pas de cancer du cœur. Des cellules du cœur.
Il y a des cancers de la...
Ah, il y a des cancers du cœur.
Ça existe. Il y a des cancers de tous les tissus.
Ah, d'accord. Merci.
Ils sont rares dans le cœur, effectivement. Mais il y en a. Il y en a.
Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que les travaux formidables sur l'angiogénèse peuvent concerner les tumeurs de système ou seulement les tumeurs d'organes?
C'est une très bonne question. Effectivement, les tumeurs sanguines qui n'ont pas normalement de besoin d'afflux de sang parce que c'est elle-même le sang, n'aurait pas besoin de vaisseaux sanguins. Mais on sait, je pense que c'est encore à l'état expérimental, que des inhibiteurs d'angiogénèse, pour probablement d'autres raisons qu'on ne comprend pas, diminuent l'agressivité des manifestations de ces tumeurs. Je pense que Nicolas doit connaître mieux que moi les... C'est effectivement très problématique parce que tout ce que j'ai dit sur l'angiogénèse, ça concerne ce qu'on appelle les tumeurs solides, c'est-à-dire les tumeurs d'un tissu. Pour les tumeurs, les leucémies...
Les leucémies, elles se développent dans,
dans la moelle osseuse.
Dans la moelle osseuse. Et la moelle, c'est très vascularisé. Donc, de ce fait, il y a aussi une possibilité d'agir sur ces éléments-là, bien que très probablement, ça ne soit pas aussi prégnant comme phénomène de survie pour les cellules hématopoïétiques, donc dans la moelle osseuse, que pour les tumeurs solides, qui sont les tumeurs d'organes. Voilà.
S'il y a d'autres questions.
C'est où Gisèle? Gisèle, c'est en Allemagne. Merci. Je l'ai dit de... Je suis désolé, j'aurais dû le dire, mais pour moi, Gisèle, c'est en Allemagne. C'est pas très loin de Francfort. C'est une petite ville, mais une grande ville universitaire, un peu comme Poitiers.
Ah, j'arrive. Excusez-moi, parce qu'on enregistre, donc vous pouvez utiliser le micro.
Si vous voulez, c'est plutôt anecdotique, mais quand vous avez dit, quand vous avez évoqué l'accueil qu'avait reçu l'idée de Folkman, je veux dire, j'étais assez surpris parce que je pense quand même que tous les chirurgiens de la planète avaient dû largement constater quand même le degré d'irrigation d'une tumeur, quoi, je veux dire. Quiconque un jour a abordé sur le plan chirurgical une tumeur l'a constaté, quoi. Oui. Et à la limite... Pourquoi il n'y a pas eu de tentative, même chirurgicale, pour démontrer l'effet? Parce qu'on peut ligaturer, on a des moyens, je veux dire, pour apporter la preuve que l'irrigation a un rôle déterminant.
C'est vrai, mais c'est vrai pour toutes les grandes découvertes scientifiques, parce que souvent la chose la plus triviale, les gens la refusent et ils la rejettent. Ça a été, je peux prendre d'autres exemples, mais je ne veux pas revenir à l'exemple de Copernic qui disait que la Terre tournait. Mais ce qu'il faut dire, et j'ai malheureusement pas eu le temps de tout dire, c'est que Judah Folkman, au départ, ne travaillait pas du tout sur le cancer. Il n'était pas payé pour ça, comme il le dit. Judah Folkman a été initialement recruté par la marine américaine, puisque les bateaux américains... partait en mer pendant plusieurs semaines, il a été recruté pour trouver un substitut du sang, quelque chose qu'on peut utiliser comme du café Nescafé, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut avoir en poudre. Et lorsque quelqu'un est blessé, on peut remettre ce sang-là en solution et au lieu de faire des sacs de transfusion, il a été recruté initialement pour trouver un substitut solide du sang. Et au fait, il a développé ses travaux à partir de là parce qu'il a trouvé un substitut du sang. Il a trouvé que ce substitut du sang permettait, par exemple, il a fait ses expériences sur la glande thyroïde, qu'il pouvait maintenir la glande thyroïde vivante, mais quand il greffait des cellules tumorales à cette glande thyroïde, ce substitut du sang, ni le sang lui-même, ne permettait pas à la tumeur d'aller au-delà d'une certaine taille, de 2 mm. Donc il s'est dit, il y a probablement une composante manquante dans le système qui fait que la tumeur ne peut pas aller au-delà de 2 mm. il a eu l'intuition de génie de doser l'oxygène avec la méthode des années 70, c'est-à-dire il avait deux fois rien. Il avait constaté qu'à chaque fois qu'il faisait passer son substitut de sang dans la tumeur, il y avait un problème d'oxygénation. Et donc c'est à partir de là qu'avec très peu d'éléments, il a dit, il a toujours dit qu'il a toujours été fasciné par le degré de vascularisation des tumeurs primaires, que d'autres probablement à force de les prélever ne faisaient plus attention. Et ça nous arrive à nous tous, quand on voit quelque chose tous les jours, on ne fait plus attention à ça. Et je crois que c'est le fait qu'il était nouveau dans le domaine, qu'il travaillait sur le sang, et je crois que c'est ça qui attirait plus son attention.
Merci. Attendez deux secondes, pardon.
Merci. Vous parliez de traitements spécifiques de la leucémie. Est-ce qu'il s'agit des anticorps monoclonaux ?
C'est moi qui parlais de ça. Non. Il s'agit d'un médicament qui est issu, qui est de la pharmacopée très classique. C'est un inhibiteur. Alors, je vous ai parlé des protéines kinases, là, les fameuses kinases. Eh bien, c'est un inhibiteur qui vient se fixer dans le site enzymatique de cette kinase et qui inhibe la capacité de phosphoryler. Or, comme dans la leucémie chronique, le mécanisme de base qui explique la maladie, c'est l'augmentation d'une activité kinase qui est due à une protéine mutée. Eh bien, le fait d'agir directement sur cette protéine mutée entraîne la réversion des tumeurs. Donc voilà, c'est un médicament intelligent en ça, c'est-à-dire qu'il cible directement la protéine responsable.
Et le mécanisme qui fait agir les anticorps monoclonaux, c'est trop long à expliquer ?
Ça vous sera certainement expliqué dans 15 jours voilà. Ou le mois prochain. Voilà.
Merci.
Voilà. Voilà.
Donc j'en profite effectivement pour dire que la prochaine conférence dans le cadre du cycle sur le cancer sera donc le mardi 4 mars à 20h30 et aura pour thème les traitements donc anticancéreux du futur ou de l'avenir. Voilà. Notre intervention. Eh bien, ce sera donc la conclusion. Rendez-vous le 4 mars. Merci encore à nos deux intervenants pour la
intervention.